Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
À prendre une allumette d'un garde, je mets le feu au stock de bidons de vernis, ça va mettre la pagaille. Et on en profite pour nous cacher dans un camion de cercueil. Tiens-toi prêt, mets-toi près de la porte de l'atelier à côté. François y va. Pascal va vers le stock des bidons de vernis sans se faire remarquer et jette l'allumette et va vers François. Le feu. Des flammes de partout. les sirènes. Les flammes de partout, les sirènes, la panique, ça court dans tous les sens. Il y a le feu. On va vers la sortie. Les gardes courent. Comme tout le monde. Et eux vont vers le côté du deuxième atelier où il y a la mise en bière avec les camions. Les gardes ont peur aussi. Ils ouvrent la porte du deuxième atelier. Pour éviter. Et puis ils évitent aussi que les ouvriers aillent là. Parce qu'il y a les camions. Tout le monde court dans le deuxième atelier. François et Pascal, les premiers, y entrent. Personne ne fait attention à personne. Le feu prend beaucoup d'ampleur. On court, on tire. Ça va dans tous les sens. Pascal et l'homme, sans être vus, se mettent à l'arrière d'un camion, se cachent au milieu des cercueils et attendent. Il y a la panique autour d'eux. Les gardes accourent vers les camions pour éviter qu'on les prenne, qu'on les abîme. Ils disent, il faut sortir les camions pour éviter qu'ils prennent feu. Et en même temps, pour éviter qu'ils les prennent. Restez dehors avec les camions. Pour que la foule ne les prenne ou qu'ils brûlent. Les gardes essayent de calmer les détenus. Même en tirant dans les foules. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. C'est une vraie panique au milieu du feu. Eux, ils en ont profité pour rester bien cachés dans le camion. On tue tout près d'eux. Les gardes arrivent à ouvrir les portes de l'atelier. Pour faire sortir les camions. En même temps, on les protège pour éviter que les prisonniers se sauvent. Les camions se mettent en route. François et son camarade est au fond du camion. François demande comment le faire pour sortir. Pascal lui dit, nous verrons bien. Ils vont prendre les cercueils pour les mettre à incinération. Le camion s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Deux hommes prennent des cercueils pour les rentrer dans l'usine d'incinération. Vite! Pendant qu'ils mènent les cercueils, François et Pascal sortent du camion et courent. Mais ils n'ont pas fait 5 mètres. On leur tire dessus. François voit Pascal tomber la tête la première, mort. Lui continue à courir, les balles sifflent autour de lui. François court de plus en plus vite. Tout d'un coup, il reçoit une balle à la jambe et tombe. On accourt à lui, le soulève, deux hommes le soulèvent, l'un par les pieds, l'autre par les jambes. Il gigote, il se défend, mais ils sont deux. Il n'y arrive pas et puis il est blessé. On demande, qu'est-ce qu'on en fait? On le brûle, comme l'autre qui a crevé. Et François a peur, il va être brûlé, vivant. Son ami mort va être brûlé devant lui. On porte le cadavre et le pauvre François qui gigote et crie « Non, 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 non !» On le porte à l'incinérateur. Grande pièce avec au centre un tapis roulant en fer qui va jusqu'à une trappe qui est l'ouverture du four. Four à gaz, sponsorisé par Gaz de France, plus acheté par Pontoise. La pièce est toute recouverte de blanc en tôle. Il y en a plusieurs comme ça. On dépose le corps de Pascal sur le tapis. Puis on pose François qui gigote, crie, hurle. Il sent sa mort venir. Les deux hommes le tiennent bien. Et en plus, il est blessé à la jambe. Le sang coule le long de sa jambe. Mais sa fureur et sa peur ne lui font pas sentir la blessure. Les deux hommes réussissent à sangler les bras et les pieds avec des sangles qui se trouvent sur les côtés. Une fois que le pauvre François est sanglé, un des hommes dit « Bon, alors, nous allons mettre en marche les tapis. Il faut en faire brûler 50 en plus de ces deux-là. François est en sueur, les yeux écarquillés. Il ne peut bouger. Il crie. « Je vous en supplie, ne me fais pas ça. Je vous en supplie. » L'homme appuie sur un bouton, dit « Allez, allons aux autres presses. » Et ils sortent de la pièce. Seconde de silence. Puis François voit devant lui la trappe du feu s'ouvrir, des flammes immenses. Une chaleur insupportable. Il sent que c'est la fin de sa vie. Le tapis se met en route, tout doucement. Et voit son ami Pascal s'approcher du four et entrer dedans. Lorsque le cadavre de Pascal entre dans les flammes, François voit avec effroi Pascal se lever en face de lui et pousser un cri terrible. Ah ! Le corps commençant à brûler. Le feu vers Pascal. Pascal se penche vers François. Un Pascal menaçant, en bouillie. La peau qui craquelle, les cheveux qui tombent dans le feu, les yeux qui sortent de ses orbites. Un Pascal prodigieux, penché sur François, son corps bouilli, brûlé. Pascal tombe, s'effondre, et en s'effondrant, il a appuyé sur le bouton qui tient les sangles, ses pieds, le reste de son corps est resté à l'extérieur du feu, du four, a paralysé le tapis roulant et bloqué la trappe. François se sent libéré, essoufflé, horrifié. Et ses deux mains, il repousse le corps de son ami devant lui. Le corps tombe à la renverse. Tombe dans les flammes. La dernière cri. Et s'effondre. Pas mort, simplement évanoui. Et la chaleur, les brûlures l'ont réveillé, mais les flammes l'ont achevé. François, vite, descendu du tapis, il est soufflé, les jambes blessées, ensanglantées et aussi un peu brûlées par Pascal lorsqu'il est tombé sur lui. Le tapis ne marche plus, bloqué par les os des jambes de Pascal. La porte du four ouverte. Pascal aimait sortir de cette fournaise. Il va vers la sortie en boitant parce qu'il a la jambe blessée. La porte en métal est fermée. Il se dit « Merde, je suis pris ici. Je ne veux pas rester ici. Ils vont me remettre sur le tapis. Je veux sortir. » veux sortir cette fois. Autrement, je suis perdu. Il cherche en vitesse. En boitant avec sa jambe, il fait le tour de la pièce. Il voit que derrière la chaudière, il y a un tuyau qui se trouve dans le mur. C'est un grand tuyau en métal. L'ouverture dans le mur où vient se mettre le tuyau a une plaque en métal vissée avec des vis. Des vis toutes simples. Parce qu'on se dit, il faut essayer. Vite. Et regarde sa veste. Vois qu'il a des boutons. Il s'arrache un bouton. Les boutons sont en métal. Et il essaye, c'est avec ce bouton, c'est de dévisser la vis. Ce n'est pas facile. Parce qu'il a mal à la jambe, il a mal de partout, et puis en plus de ça, il n'est pas très habile. C'est pas un bricoleur, c'est Monsieur Bébé. Après un long moment, il réussit à dévisser quatre vis qui maintenaient la plaque. Il a mal aux mains parce que c'est pas facile de dévisser avec un bouton. La plaque. Le tuyau est maintenu dans le trou de cette plaque. Il a réussi à retirer la plaque avec son tuyau qui dépose à terre. Il voit que le tuyau amène la suie. C'est de la suie du four. Bout, il y a une autre trappe. Vite, François, essoufflé, s'engouffre dans le trou. Il y a un trou profond. C'est plein de suie de cadavres. C'est gras. Épais. Et dire que Pascal, c'est ça maintenant. Il s'enfonce dans le puits. Jusqu'à mi-cuisse. Arrivé au mur. Il commence à dévisser la plaque qui a une trappe pour le ramenage mais qui s'ouvre que de l'extérieur. François est très fatigué. En plus, il fait très chaud. Il y a une odeur de gras très désagréable. C'est les cadavres. La suite cadavre. Il réussit à enlever la plaque de métal. Je sais comment il a fait. Et il se trouve dehors. Vite, il s'engouffre, tombe à terre. En même temps que de la suie. Il se relève. Tout noir, essoufflé, transpirant. Vois qu'il a l'arrière du bâtiment et que ça donne en pleine nature. Vite et d'une force surhumaine, il court comme il peut, en boitant de la jambe qui lui fait de plus en plus mal. Le sang mélangé à la suie. Il est essoufflé, apeuré. Mais il sait que pour sa survie, il doit s'éloigner le plus loin possible de cet endroit. Il court droit devant lui. C'est des champs à perte de vue. Il passe d'un champ de blé à un champ d'herbe. Plus loin, il voit des bois. Il se dépêche d'y aller. Pauvre François, qui traîne la jambe en sang, noir de suie, qui a peur d'être tué. Il est tellement fatigué qu'il a envie de pleurer. Le soleil chauffe en plus. De temps en temps, il se retourne et voit que personne ne le suit. Peut-être qu'ils n'ont pas encore vu qu'il était parti. Ils vont être surpris et ne rien comprendre. Enfin, il est arrivé comme il a pu à la lisière d'un bois. Verdoyant et frais. Cette fraîcheur lui fait du bien. Une fois enfoncé dans le bois, essoufflé, il s'allonge à terre, les jambes et les bras écartés. Ouf, respire. Il a très mal à la jambe. Les branches d'arbres font passer les rayons du soleil. Épuisé, il s'endort. Sommeil profond et noir. Dort comme un enfant, les poings fermés contre sa bouche, la tête repose sur son bras. Il dort profondément, le soleil, les arbres le protègent. Petit à petit, il se réveille, voit les branches d'arbres bouger au milieu des aiguilles lumineuses, reste sans bouger, la bouche légèrement ouverte, n'est pas tout à fait conscient. Puis, petit à petit, il ressent une douleur à la jambe. Il se souvient, son pied est blessé, il est en fuite. Il a soif aussi. Soulève doucement, se remet sur sa jambe difficilement et se met en marche. La jambe lui fait très mal. Il marche doucement, en traînant cette jambe. Puis, au bout d'un moment, il tombe en pleine forêt. Sur un lac assez grand, entouré de forêts. La berge est pleine de ronces, herbes, folles, petits rochers. Sur l'autre berge se trouve une cabane, plutôt une maison abandonnée, envahie par la nature. François décide d'aller sur l'autre rive. se met en marche. Ce n'est pas facile de marcher dans cette nature folle. Et en plus, très épuisé. Il voit une barque accrochée à la berge. Décide de la prendre pour aller sur l'autre rive. Entre dans la barque et la décroche. Cette fatigue supplémentaire l'a épuisé, sans force, s'allonge malgré lui dans la barque qui part à la dérive. Épuisé, souffrant la mort, il s'évanouit. Le trou noir. La barque va à la dérive. Une jeune fille habillée d'une robe blanche, cheveux blonds, tombant. Tombant. Elle est très mince. Elle voit la barque voguer au fil de l'eau. Entre dans l'eau, nage jusqu'à la barque. Voit, il y a endormi dans la barque un jeune homme, noir de suie, les vêtements défaits, la jambe droite tachée de sang. Elle entre dans la barque. Le jeune homme semble profondément endormi. Il n'a rien entendu. La jeune fille prend une rame et face au jeune homme, rame pour ramener la barque jusqu'à la berge. La barque coule sur une eau pleine de reflets lumineux. Des branches d'arbres tombent presque dans l'eau. Le lac est assez grand. On entend le bruit de la nature et de la rame. François semble dormir et se laisse bercer par les mouvements de la barque. La jeune fille voit son visage illuminé par le soleil des rayons. Le soleil dont les rayons passent entre les branches. Malgré sa santé maigreur, il a le visage pur et jeune. Il ressemble à un ange qui revient du centre de la terre. Il ne bouge pas, il semble dormir d'un sommeil profond. La bouche légèrement ouverte comme les bébés. Tout à coup, il ouvre les yeux et voit de la clarté blanche, puis des taches sombres. Petit à petit, sa vue devient moins trouble. Quelque chose de blanc qui bouge. Puis, une jeune fille devant lui est toute blanche et voit une jeune fille grande, mince, habillée de blanc, les cheveux longs, longs. Elle est entourée de lumière, elle semble elle-même lumineuse. Elle lui sourit. Vous allez mieux ? Il ne peut répondre, trop faible et pas assez dans le monde. Elle lui sourit. Elle lui dit, nous allons arriver. Ne vous faites pas de soucis.
La jeune fille se demande pourquoi elle veut lui venir en aide. Peut-être que c'est un criminel recherché, un de ces jeunes qui viennent de la ville. Elle mène la barque vers la berge, près de la maison qui semble abandonnée. Quitte la barque, l'accroche à un piquet, puis retourne chercher le pauvre François et se penche vers lui.
Pouvez-vous lever ?
François essaye, mais sa faiblesse
le relais
l'empêche de se lever. Il risque de perdre l'équilibre
et il dit, attendez, je vais vous aider.
Elle aide à soulever et à sortir de la barque. Debout, François a le vertige et se sent très faible. Il est vrai qu'avec tout ce qui lui est arrivé, elle lui dit,
je vais vous faire entrer dans cette maison. Elle est abandonnée.
La maison a un étage, des murs en pierre disjointe, fenêtres vite cassées. Le toit est en partie démoli. Monte une marche et elle va ouvrir une porte de bois usée qui a été marron.
Ils sont entrés dans une pièce carrée avec deux fenêtres aux vitres brisées. Les murs sont de la pierre à nu. Le sol, c'est de la pierre usée. Il y a une grande cheminée toute noire, des escaliers de bois qui montent à l'étage. Comme meuble, une vieille table de bois, deux chaises empaillées, un lit de camp dans un coin. C'est très usé, ça sent l'humidité, parce que la maison est très humide. Elle est trop près du lac. Sur le lit de camp, il y a une couverture kaki. Elle lui dit,
ici c'est chez moi.
Vous allez vous allonger ici, sur le lit. Elle l'aide.
Je vais chercher la Pelati. Elle va vous soigner la jambe.
Elle lui dit,
merci.
Et elle s'éloigne.
Dès qu'il l'a vue, il a été séduit. Il a été séduit par elle. Il a pu voir une apparition. Une jeune fille qui est si fraîche, si simple. Et j'ai jamais rencontré une fille comme elle. Toutes celles qu'il a rencontrées étaient des femmes, des filles sophistiquées de la ville.
Il se sent très faible et a mal à sa jambe.
Revient la jeune fille avec une vieille femme, cheveux blancs, maigres, habillée d'une vieille robe noire sale, tachée de terre et autres. La jeune fille demande à la mère Pelati,
est-ce que tu peux soigner ce jeune homme ?
La vieille lui demande,
d'où il vient celui-là ?
Elle lui dit, j'ai trouvé dans la barque blessé.
Ça peut être dangereux. Et si c'est un bandit?
La jeune fille lui dit, ça m'étonne. Il n'a qu'à le regarder. Il a l'air si inoffensif. Lorsqu'il dort, mais dans la barque, il le faisait comme un enfant.
Et la jeune fille lui dit, je vois. Mais on ne doit pas se satisfaire d'un beau visage. Ça peut cacher quelque chose.
La jeune fille lui dit, de toute façon, on ne peut pas le laisser comme ça.
Oui, tu as raison.
Elle se penche sur le pauvre François qui souffre toujours beaucoup.
Bien, on va d'abord laver tout ça. Mais comment? Il n'y a pas d'eau ici.
La jeune fille dit, si, te fais pas de soucis. Je vais à la fontaine en chercher.
Elle ouvre le placard pour prendre un seau. Et sort de la maison.
La vieille dit, bon, eh bien moi, je vais faire le feu.
Et elle prépare le feu de cheminée.
Tout en préparant le feu, elle demande, d'où viens-tu?
François lui répond, de Paris.
Elle lui dit, ça ne m'étonne pas, les Parisiens croient toujours qu'il leur arrive des choses bizarres. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Il lui répond très faiblement, des hommes ont voulu me tuer, ils m'ont tombé dessus pour voler.
Elle lui dit, un pauvre bougre comme toi, ça m'étonne.
La jeune fille arrive avec un seau d'eau.
Dis à la Pédji, ne lui pose pas trop de questions, il est déjà très faible. La Pédji lui dit,
il peut bien me donner son nom tout de même.
François lui dit, François Ducourt.
La fille donne le seau, la Pélagie va le faire chauffer.
Tu as des bandages?
Oui, deviens libre. Bien, ça ira.
François se sent très faible. Et s'endort. Il est réveillé par une grande douleur. Grande douleur à la jambe et voit la vieille femme qui lui nettoie la plaie. Elle lui dit,
tu as une jolie blessure, j'ai réussi avec un couteau à t'enlever la barbe. J'avais que de l'eau. Après, je te mettrai de l'alcool pour désinfecter.
Pour soigner la jambe, elle a déchiré le pantalon jusqu'en haut de la cuisse. Une fois qu'il a été pansé, ça a été dur et douloureux pour François. Elle lui a enlevé la chemise, nettoyé le visage et le corps. La vieille dit,
tu as pêché un très joli poisson. Prépare quelque chose à manger. Ça mange ça.
Demi-heure plus tard, après avoir mangé, ils
s'est endormie, mais d'un sommeil plus léger. La jeune fille lui a prêté un t-shirt propre. La vieille et la fille sont assises sur les marches de l'entrée de la maison, dehors. La Pléiade lui dit,
tu ne peux pas le garder près de toi.
Et pourquoi?
Mais parce qu'on ne sait pas qui il est. Et puis, ses vêtements montrent que c'est un prisonnier. Il s'est peut-être évadé de prison. C'est dangereux,
une fille dit. Il m'a l'air bien inoffensif.
Peut-être bien, mais on ne sait jamais. Et puis, tu oublies ta situation.
Quoi? Quelle situation?
Je suis libre. Je ne fais rien de mal. C'est là-bas que je fais quelque chose de mal.
La vieille
lui dit. Ne dis pas ça, c'est terrible ce que tu dis là.
Mais tu sais très bien que c'est la vérité,
la vieille lui dit. Eh bien justement, avec lui, ce sera encore pire.
Profondément. Il se réveille et voit la jeune fille près de la cheminée et surveiller quelque chose qui brûle dans une casserole. Il se retourne et le voit éveillé, lui demande « Vous allez mieux ?» Il lui dit « Vous appelez comment ?»
Il lui dit « Un drôle de nom, n'est-ce pas ?»
Il lui dit « Ça vous va bien ?»« Merci, je vous prépare un bouillon. » « Je n'ai pas grand-chose. » Lui demande « Vous vivez ici ?» Il dit « Oui, pour le moment. » Puis, il passe la journée allongé. Comme il a encore un peu de fièvre, elle lui fait boire de la tisane. Il a encore mal à sa jambe. Elle aide à sortir de la maison pour faire ses besoins. La nuit, elle va se coucher à l'étage. Il y a une pièce. Elle y a mis une couverture à terre. Elle est heureuse de s'occuper de ce jeune homme sans défense. Lui la voit, la trouve très douce. Lorsqu'il se réveille, il la voit dans la pièce. Préparer des choses. Pour lui, c'est un enchantement des yeux. Puis, la Pléiade vient refaire le pansement.
se guérit bien.
Il n'a pas été infecté. Pourtant, sale comme tu étais, il a moins mal.
Nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.